Merci d'être avec nous sur Europe 1.
Il est 19h.
Europe Soir.
Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous. Attention, embouteillage de grands textes en plein débat sur les retraites. Le projet de loi immigration a été présenté en Conseil des ministres ce matin. Deuxième grand projet du quinquennat Macron 2 et donnant lieu à une nouvelle danse du ventre de la majorité à l'égard des Républicains. Ça risque d'être plus corsé que pour les retraites. LR juge le texte insuffisant et rejette notamment la création d'un titre de séjour métier en tension. Notre invitée ce soir, la députée LR du Doubs, Annie Genevard. Elle sera avec nous dès 19h30. Appelez-nous pour réagir au 39-21. Ce sera après le journal d'Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Raphaël. Bonsoir à tous. Aïe, 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 la nouvelle facture d'électricité va faire mal, plus 15% supplémentaire. Sans le bouclier tarifaire, ce serait encore pire. Nous verrons comment chacun tente de faire des économies. En grande difficulté, le groupe de maisons de retraite Orpea passe sous le contrôle de la Caisse des dépôts. La rentabilité à tout prix ne sera plus la priorité. Dans ce journal, le gouvernement qui garde le cap sur la réforme des retraites, mais se veut à l'écoute des opposants. Autre sujet sensible, le projet de loi immigration. Et puis la mortalité des cyclistes en hausse de 30%, prudence sur les routes. Enfin, la sortie du dernier Astérix, les premiers spectateurs ne sont pas emballés.
Vous nous parliez, Hélène, des chiffres inquiétants, des accidents de vélo. Ça fait beaucoup réagir nos auditeurs. Nous vous entendrons sur le sujet vers 19h45. Appelez-nous au 39-21. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Raphaël.
La tendance météo avec vous.
Alors pour la Chandeleur, au niveau des températures, pas de grandes variations, sauf peut-être demain matin dans le sud-ouest, on va perdre 2 à 5 degrés. Sinon dans le ciel, toujours beaucoup de nuages, mais le soleil gagnera du terrain par le sud. Météo complète à la fin du journal.
À tout à l'heure Marlène. Le 1er février est signe de changement et celui-là a des conséquences considérables pour de très nombreux Français.
Et oui, la hausse de 15% des tarifs de l'électricité pour plus de 20 millions de foyers et 1,5 million de petits professionnels. 15% de plus sur la facture, c'est considérable. Alors, tout le monde a ses astuces pour consommer moins. Clément Barguin.
Une facture d'électricité qui pourrait encore augmenter, cela inquiète Sandra, mère de famille. Chez elle, il n'y a pas de petites économies.
Eh bien, je vais encore être plus derrière eux. Parce que 3 ados qui ne font pas attention, ça fait cher. Ils coupent leur lumière, je leur demande d'éteindre la télé.
Véronique, elle chauffe son appartement avec des radiateurs électriques. Alors, elle a sorti les gros pulls et les plaids.
Là, j'ai fait installer un thermostat dans ma chambre, par exemple, pour réguler la température. Je chauffais à 20-21 degrés et là, c'est 18 degrés. J'ai l'application sur mon smartphone et je regarde, oui, j'ai baissé, ouais. 10-20 euros peut-être par mois, oui, c'est énorme. Hein.
Tous les moyens sont bons pour ne pas voir rouge au moment de recevoir sa facture. Henri est postier à la retraite.
J'ai un contrat de nuit, donc toutes les lessives se font la nuit, au tarif le moins cher. Et je fais très attention. J'ai même changé certaines ampoules. Jusqu'où pourra-t-on payer ?
Sans le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement, le prix de l'électricité aurait bondi de quasiment 100%.
Et puis autre changement important du 1er février, la baisse de 25% de la durée d'indemnisation des chômeurs qui ouvrent leurs droits à partir d'aujourd'hui. Un plancher de 6 mois sera préservé.
Le scandale des maisons de retraite Orpea, c'était il y a un an avec la sortie du livre Les Fossoyeurs. Aujourd'hui, c'est fait, le groupe passe sous le contrôle de l'État.
Oui, la Caisse des dépôts rachète en effet plus de 50% du capital. Orpea pourra ainsi effacer 3,8 milliards de dettes, ça c'est pour les chiffres. Mais concrètement, qu'est-ce qui va changer pour les 350 établissements du groupe ? Réponse du nouveau PDG Laurent Guillot.
D'abord, un, ça assure la pérennité du groupe, donc ça c'est fondamental évidemment. Et puis deux, ça permet de financer et de mettre en œuvre le plan de refondation qui recentre l'activité du groupe sur le soin et l'accompagnement des plus fragiles, qui redevient le cœur de métier du groupe. Nous avons commencé déjà à embaucher 800 personnes en CDI, dont la moitié d'aides-soignants par mois sur les 4 derniers mois de l'année 2022. Ça veut dire continuer à améliorer l'alimentation où nous avons augmenté le budget de 35% en faisant plus de produits locaux, plus de produits bio. Nous avons mis en place un comité éthique avec des correspondants éthiques dans chacun des établissements. Et ce que va nous permettre ces nouveaux investisseurs, c'est d'accélérer, c'est d'aller plus vite et d'avoir les moyens réellement de mettre en œuvre ce plan.
Le PDG du groupe Orpea, joint par Céline Géraud.
Après les EHPAD, évoquons maintenant les retraites. Le gouvernement se retrouve en position délicate au lendemain d'une mobilisation massive contre sa réforme.
Oui, un record historique de manifestants qu'on ne peut ignorer. Et en même temps, selon la fameuse expression chère à Emmanuel Macron, en même temps, une volonté d'aller au bout de cette réforme avec la mesure phare, le report de l'âge de départ à 64 ans. Pas facile donc, Jacques Serret, de surfer entre ces deux contraintes.
Oui, et c'est un changement de ton qui s'opère progressivement au sein de la majorité. Après avoir exprimé de la fermeté le week-end dernier, l'exécutif, face à l'ampleur de la mobilisation d'hier, tente de se montrer plus conciliant. On regarde cela avec humilité et concentration, temporise Olivier Véran en compte-rendu du Conseil des ministres. Même message cet après-midi d'Elisabeth Borne devant les sénateurs.
Bien sûr, nous entendons les inquiétudes et les doutes. Nous sommes prêts à enrichir le texte et je ne doute pas que le Parlement y contribuera. Nous travaillerons avec toutes celles et ceux qui partagent notre volonté de préserver notre modèle social. Je vous remercie.
Prêt à enrichir le texte, mais dans une certaine limite, hors de question de revenir sur le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Pour l'exécutif, c'est toujours non négociable. Cette réforme est indispensable, insiste-t-on encore du côté de l'Élysée. Une des rares concessions qui semble tenir la corde serait une clause de revoyure en 2027, ce qui ne devrait évidemment pas calmer la grogne sociale, puisque les syndicats réclament le retrait pur et simple du texte.
Des syndicats qui annoncent deux nouvelles journées d'action, les mardis 7 et samedi 11 février, même date pour la RATP, tandis que la CGT Cheminots et Sudrail proposent une grève les 7 et 8 février, avant éventuellement un mouvement reconductible dès la mi-février. Sachez enfin que l'examen du texte de réforme en commission s'achève ce soir, et c'est quoi qu'il en soit le projet initial qui arrivera dans l'hémicycle lundi.
La réforme des retraites, qui n'est pas le seul texte à donner du fil à retordre au gouvernement, il y a aussi le projet de loi immigration.
Oui, texte présenté ce matin en Conseil des ministres. Il prévoit d'expulser plus rapidement les délinquants étrangers et de faciliter la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Alexandre Chauveau, sur ce texte aussi, le gouvernement aura besoin des Républicains.
Oui, et c'est loin d'être gagné à ce stade. Éric Ciotti et l'ensemble de la droite ont déjà fait savoir qu'ils voteraient contre. Le casus belli, c'est le volet travail de ce projet de loi qui vise à créer un titre de séjour pour les métiers en tension. Une opération massive de régularisation dénoncent en chœur les Républicains et le RN. Mais Gérald Darmanin défend son texte tout à l'heure à l'issue du Conseil des ministres.
Il ne s'agit pas d'être contre l'immigration ou pour l'immigration, mais de pouvoir contrôler l'immigration et pour un pays souverain comme le nôtre, de définir ce que nous souhaitons comme type d'immigration et quelles armes administratives, juridiques nous mettons en place pour à la fois accueillir, pour reconduire et pour intégrer les personnes qui, depuis toujours, viennent dans notre pays pour pouvoir vivre.
Alors si Gérald Darmanin s'affiche confiant quant à l'issue du vote sur ce texte, en coulisses, le ministre de l'Intérieur multiplie les entretiens pour tenter de satisfaire la droite. Un exercice d'équilibriste pour ne pas se mettre à dos l'aile gauche de la Macronie, peu encline à voter un texte qui serait jugé trop dur sur l'immigration. Bref, Gérald Darmanin doit trouver le meilleur compromis possible sur un projet de loi clivant, projet qui revêt pour lui un enjeu politique majeur. Alors que le recours à un 49-3 est exclu par Beauvau, un échec à faire voter ce texte serait vu comme un camouflet pour le ministre de l'Intérieur.
Alexandre Chauveau.
Et la main tendue du gouvernement à LR sur ce projet de loi immigration, nous en parlons avec la députée Les Républicains du Doubs, Annie Genevard, dès 19h30. Appelez-nous au standard le 39-21. On quitte la France et son agitation sociale pour rejoindre le Royaume-Uni et son agitation sociale.
Eh oui, une inflation galopante, des salaires qui ne suivent pas, les raisons de manifester ne manquent pas. Ce mercredi est même la journée de grève la plus importante depuis une décennie. Reportage à Londres, Élodie Goulesque.
Dégagez les conservateurs, voilà le slogan scandé par plusieurs milliers de manifestants dans les rues de Londres. Parmi eux, Viola, enseignante depuis 5 ans.
Ils ne payent pas suffisamment d'argent, on a trop de travail à faire, ça nous empêche de faire notre boulot en fait, et ils essayent de enlever droit à la grève, droit à faire des manifestations.
La proposition de loi du gouvernement visant à imposer un service minimum, même les jours de grève, est l'un des points dénoncés par les quelques 500 000 enseignants, fonctionnaires, chauffeurs de train ou personnel d'aéroport mobilisés aujourd'hui. Déby est parent d'élèves et manifeste avec son fils de 7 ans en soutien aux enseignants.
On montre notre solidarité avec les enseignants et on montre que les parents sont inquiets du manque de financement pour les écoles. On veut voir nos professeurs avec de bonnes ressources pour éduquer nos enfants.
D'autres mouvements de grève sont déjà prévus tout au long du mois de février. Londres, Elodie Goulasque, Europe 1.
Et puis journée de deuil à Memphis aux États-Unis. Ce soir sont célébrées les funérailles de Tyre Nichols, afro-américain passé à tabac par des policiers noirs après une simple infraction au code de la route. La vice-présidente Kamala Harris fera le déplacement.
19h10 sur Europe 1, restez avec nous dans quelques instants. Le bilan 2022 de la sécurité routière, très préoccupant pour les cyclistes. A tout de suite.
Europe Soir,
Raphaël Delvolvé.
Et maintenant, parlons énergie des territoires avec Antargaz.
Bonjour Valérie Erhardt, vous êtes directrice sécurité, environnement et qualité chez Antargaz, qui est engagée dans la transition énergétique et dans une démarche RSE exigeante, et qui d'ailleurs publiera très prochainement son premier rapport RSE. Vous pouvez nous en parler ?
Alors ce rapport RSE est un document qui va être accessible à nos clients, aux pouvoirs publics, aux investisseurs, à l'ensemble des parties prenantes. Il nous permet de synthétiser l'ensemble des actions qu'Antargaz met en œuvre pour verdir sa feuille de route.
Alors justement, quelles sont les actions qu'Antargaz est en train de mettre en place?
Alors, nous avons d'abord réalisé deux bilans carbone qui nous ont permis de comptabiliser nos émissions de gaz à effet de serre. Et par exemple, nous avons lancé un programme de décarbonation sur nos sites industriels. Et nous avons également mis en œuvre un partenariat avec des sociétés de transport pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre flotte logistique.
Merci Valérie Erhardt, à bientôt.
Merci et à la semaine prochaine pour parler énergie des territoires avec Antargaz. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Réception, j'écoute. Une chambre pour trois la semaine prochaine, ok, je vais voir ce qu'on peut faire.
L'hôtel de David multiplie les réservations. S'il ne renforce pas ses équipes, c'est lui qui va avoir besoin de vacances. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement des profils de qualité.
J'ai besoin d'Indeed.
Avec Indeed, vous pouvez publier une offre, gérer les candidatures et faire vos entretiens d'embauche depuis une seule et même plateforme. Rendez-vous sur indeed.com/offre et profitez de 100 € offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition.
Europe Soir, 19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.
19h12, la suite du journal d'Hélène Zélani. On s'intéresse maintenant au bilan de la sécurité routière pour l'année 2022.
Oui, la mortalité est en baisse pour les automobilistes. En revanche, avec 244 tués, le bilan est très inquiétant pour les cyclistes, en augmentation de 30% par rapport à 2019. Comme dit la chanson, à Paris en vélo, on dépasse les autos, mais ça devient de plus en plus dangereux. Écoutez le reportage de Guillaume Dominguez.
Arrêtée sur la piste cyclable, Sophie a stoppé son vélo le long du trottoir pour laisser passer un fourgon. Pour elle, le premier danger dans Paris vient des infrastructures.
Les rues sont systématiquement en double sens pour les vélos et pour les voitures, alors que quelquefois, il n'y a vraiment pas la place d'avoir un couloir à vélo. On est obligé de mettre le pied à terre à tout moment, c'est dangereux.
L'autre grand danger vient des cyclistes eux-mêmes, reconnaît cette utilisatrice quotidienne du vélo.
Il y a une incivilité généralisée et de la part des automobilistes, mais surtout des vélos. Moi qui suis cycliste, je ne devrais pas dire ça, mais les vélos grillent systématiquement les feux. Tout le monde fait comme il veut, où il veut. Sans aucune discipline.
Un comportement sur la route dénoncé par les automobilistes. Pour Mouloud, taxi depuis 43 ans, rouler dans Paris n'a jamais été aussi dangereux qu'aujourd'hui.
Les vélos, les trottinettes, ils ne sont pas pénalisés, donc ils se permettent de faire n'importe quoi, passer au feu rouge, passer dans les stops, sans s'arrêter à toute vitesse. Malgré les accidents qu'il y a eu, les gens ne veulent pas comprendre.
De plus en plus d'incivilité qui s'explique aussi par l'augmentation du nombre de cyclistes. Paris a enregistré 33% d'utilisateurs de vélos en plus depuis 2019.
Guillaume Dominguez.
À voiture, en vélo, à pied ou en trottinette, vous irez peut-être au cinéma pour découvrir le film au casting impressionnant qui sort aujourd'hui, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu.
Les aventures du plus célèbre des Gaulois se passent cette fois en Chine. C'est Guillaume Canet qui joue le rôle d'Astérix et réalise le film avec un budget colossal de 65 millions d'euros. Gilles Lelouch joue Obélix, Marion Cotillard Cléopâtre. Christopher Faleras a rencontré des spectateurs à la sortie de deux cinémas parisiens. Sentiment mitigé.
C'est vraiment nul. C'est un humour qui est pour les enfants vraiment en bas âge, quoi.
C'était bien, mais il y a des trucs qui n'étaient pas nécessaires. Des scènes qui sont trop longues. Je sais pas, je suis mitigée.
Là, on est à côté de la plaque. En fait, on rigole sans rigoler, quoi. On rigole du film, on rigole pas pour le film. Il doit y avoir un peu moins de la moitié de la salle qui est partie une demi-heure avant la fin, quoi.
Je dirais que c'était pas toujours drôle. Après, chouette pour le cinéma, un budget pareil dans le cinéma français, je trouve ça génial. Mais c'était un peu trop ambitieux. Pour le coup.
Je dirais que
Je sais pas, l'ambiance générale ne m'a pas emporté, mais si justement il y a une transmission de génération et que ça le fait dans le bon sens, bah alors tout le monde va être content.
C'était drôle, il y avait plein d'acteurs que je connaissais, des chanteurs comme Big Flo et Oli, il y avait des youtubeurs, c'est très bien.
Moi j'ai bien aimé. En plus, il a été tourné en Auvergne et on est d'Auvergnate, donc on a doublement apprécié.
Voilà, réaction parfois mitigée de spectateurs du dernier Astérix, recueilli au micro Europe 1 de Christopher Falleras. D'irréductibles footballeurs sur les terrains ce soir, multiplex de Ligue 1 dans Europe 1 Sport.
Et 5 matchs commencent à 21h, 5 autres ont déjà commencé à 19h. Pour l'instant, on est à 0 partout entre Nantes et Marseille, entre Angers et Ajaccio, et entre Lille et Clermont. En revanche, 3 mènent 1-0 face à Toulouse et Lorient 1-0 à Reims. À 21h, la rencontre phare, ce sera Montpellier-PSG. Des Parisiens en souffrance qui doivent absolument remonter la pente après un match nul très décevant dimanche dernier au Parc des Princes, Cyril de la Morinerie.
Oui, le PSG déçoit 4 points pris seulement depuis le début de l'année. C'est le rythme d'une équipe qui lutte pour ne pas descendre. Ce n'est évidemment pas une cadence digne d'un mastodonte tel que le Paris Saint-Germain. Les Parisiens, battus à 2 reprises à l'extérieur en 2023, doivent se rattraper à Montpellier, confirme l'entraîneur parisien Christophe Galtier.
Évidemment que c'est insuffisant, insuffisant en termes de points, mais aussi insuffisant en termes de jeu. On doit rapidement retrouver un niveau de jeu beaucoup plus élevé que ce que nous proposons. Et surtout, faire des points. Maintenant, on travaille tous et février doit être vraiment meilleur que janvier.
Un PSG qui se déplace dans l'Hérault sans Neymar, qui a une gêne musculaire, sans Verratti suspendu et sans nouveau joueur, car Paris a totalement manqué ce mercato. À l'image du transfert raté de la star du Maroc, Hakim Ziyech, tout cela parce que Chelsea, son club, n'a pas envoyé les documents suffisamment tôt. Malgré un recours, la Ligue vient de refuser le transfert. Paris, emmené par Mbappé et Messi, doit désormais se retrousser les manches. Dans moins d'une semaine, c'est le choc de Coupe de France à Marseille.
Voilà Cyril, les 4 autres rencontres seront à suivre à 21h. Monaco, Auxerre, Rennes, Strasbourg, Lens, Nice et Lyon-Brest. Ce sera donc dans le multiplex d'Europe 1 Sport. Place maintenant au marché financier avec Claire Lemaître de Boursier.com. Paris reste stable ce soir.
Oui, alors c'est une toute petite baisse, moins 0,1% pour le CAC 40. Le marché qui ne bouge pas beaucoup depuis plusieurs jours, dans l'attente d'importantes décisions monétaires. La Fed, la réserve fédérale américaine, livrera son verdict sur ses taux ce soir à 20h. Et demain, ce sera au tour de la Banque Centrale Européenne. Alors en attendant, pas de prise de risque pour les marchés en Europe. Londres, 7,01%. Pour Francfort, c'est un peu petit gain de 0,3, plus 0,4 pour Milan. Et à Paris, le CAC 40 cède donc 0,1% à la clôture.
Merci Claire Lemaître.
Et merci à vous Hélène Zélani. On vous retrouve tout à l'heure à 20h pour un nouveau point sur l'information, la météo. Marlène Durel, les nuages toujours majoritaires demain.
Oui, un temps souvent gris et sec dans la plupart des régions. Alors on a des petites pluies fines qui peuvent encore circuler entre la région Grand Est, la Bourgogne, la Franche-Comté, l'Est de la Bourgogne et en débordant même un petit peu sur le Lyonnais. Quelques averses neigeuses attendues sur les Vosges aussi, des 700 mètres d'altitude en très faible quantité. Quelques flocons sur le Jura mais en matinée seulement.
Quelques régions auront droit à des moments ensoleillés.
Oui, le soleil va percer par le sud du pays. Alors il sera déjà présent le matin des Alpes à la Provence et à la Corse, ainsi que de la basse vallée du Rhône au Roussillon, au niveau des Pyrénées. Et puis au fil des heures, eh bien, il va gagner vers la région toulousaine, le sud du massif central. Le soleil qui progressera également du Pays Basque en direction du bassin d'Arcachon. Et puis j'oublie pas le nord-ouest, puisque Météo France prévoit quand même des éclaircies en Bretagne et en Normandie.
Et les températures, c'est à peu près les mêmes qu'aujourd'hui.
Oui, à part dans le sud-ouest demain matin, il fera plus froid, mais sinon pas de variation. L'après-midi, elles seront stationnaires. 8 degrés en moyenne au nord, 11 au sud. Il fera par exemple 7 à Besançon, à Paray-le-Monial, 7 degrés à Guéret, 8 à Thionville, 9 à Bourges, Poitiers, Auxerre et Chambéry, 10 à Amiens, 11 à Paris, à Saint-Malo, à La Rochelle, 12 en Avignon et 13 à 15 degrés près de la Méditerranée.
C'est bien noté. Merci Marlène Duré. À tout à l'heure 23h pour un nouveau point sur les couleurs du ciel. Je vous rappelle le numéro du standard, le 3921. Élise vous attend. Vous pouvez appeler pour parler soit du projet de loi immigration, c'est ce qu'on fera à partir de 19h30, ou bien de ces accidents de vélo qui ont explosé en 2022, plus de 200 morts. Appelez-nous au 3921. Europe 1 revient dans quelques instants, à tout de suite.
19h, 20h,
Raphaël Delvolvé.